Le 23 mars 1973, Lennon est à nouveau prié de quitter le pays dans les 60 jours. Ono et lui répondent, le 1er avril, par un discours exprimant leur volonté de créer un état conceptuel sans frontières, ni territoire, ni passeport, mais uniquement un peuple, l'Utopia. Cette nouvelle utopie, la première étant celle de Thomas More dans son livre L'Utopie, a pour hymne national un silence de quelques secondes, et tous ses citoyens en sont ambassadeurs. Cependant, ce concept ne prend pas auprès du public et tombe dans l'oubli. Le 27 juin, le couple apparaît aux audiences du procès du scandale du Watergate. Par la suite, les successeurs de Nixon, Gerald Ford puis Jimmy Carter, se montrent moins impliqués dans le combat contre Lennon. Ce dernier est même présent au gala d'investiture de Carter. Finalement, il reçoit sa carte de résident permanent en juillet 1976, avec la possibilité de devenir citoyen américain après 5 ans. Le récit de ces événements a fait l'objet d'un documentaire, Les USA contre John Lennon, sorti en 2006. 3. Œuvre. 3.1. Musique. 3.1.1. Chant. Si John Lennon chante une grande partie du répertoire des Beatles, il n'en déteste pas moins sa voix. George Martin se rappelle qu'il avait un dégoût inné pour sa propre voix, que je n'ai jamais compris. Il me disait toujours de faire quelque chose de sa voix, mettre quelque chose par-dessus, la rendre différente. De fait, le producteur effectue régulièrement des retouches ou des corrections pour satisfaire le chanteur. Lennon est toutefois capable de performances vocales spectaculaires. Ainsi, enrhumé lors de l'enregistrement de l'album Please Please Me, bouclé en 12 heures d'affilée, il préserve sa voix jusqu'au dernier moment, avant de hurler sur Twist and Shout, tout en étant conscient qu'il s'abîme la voix pour les jours qui suivent. On voit aussi, dans la série Anthology, George Martin écouter la bande de la première prise d'A Day in the Life et s'émouvoir. Écoutez la voix de John, elle me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Mais surtout, du début jusqu'à la fin du groupe, la complémentarité des voix de John Lennon et de Paul McCartney, la justesse, la finesse et le timbre des harmonies sont pour beaucoup dans le succès des Beatles. Avec les débuts de sa carrière solo, Lennon compose davantage de ballades, comme Imagine, sur lesquelles sa voix s'illustre de façon plus douce que sur les premiers rock des Beatles. Au début des années 1970, le début de sa thérapie du cri primal a des effets qui se ressentent sur les chansons de l'album John Lennon Plastic Ono Band, comme Mother ou I Found Out, où il hurle littéralement. Mais il avait déjà été l'auteur de performances aussi extrêmes avant d'entamer cette thérapie. Un an plus tôt, sur Cold Turkey, il explore les limites de sa voix pour rendre compte des affres du sevrage, expliquant avoir été inspiré par Yoko Ono. 3.1.2. Instrument. Le premier instrument que Lennon apprend à jouer est l'harmonica. Son oncle George Smith lui en offre un dans son enfance et lui apprend à en jouer. L'instrument revient beaucoup dans les premières prestations des Beatles à Hambourg et au Cavern Club, et devient un effet récurrent de leurs premiers enregistrements, revenant ainsi sur plusieurs singles tels que Love Me Do, Please Please Me ou From Me To You. Lennon abandonne par la suite cet instrument, qu'il utilise pour la dernière fois en studio sur I'm a Loser. Il considère que l'effet créé est désormais sans surprise. L'instrument par excellence de John Lennon est la guitare, à laquelle il est initié dans sa jeunesse par sa mère Julia, qui lui enseigne tout d'abord le banjo. Sur la plupart des titres des Beatles, il tient ainsi la guitare rythmique, tandis que George Harrison est guitariste solo. S'il utilise une guitare acoustique avec les Quarrymen, il utilise majoritairement des guitares électriques avec les Beatles. L'une d'entre elles, sa Rickenbacker 325, est devenue emblématique et a été reproduite comme contrôleur de jeu pour The Beatles Rock Band, sorti en 2009. Il a aussi rendu célèbre un autre modèle de guitare, l'Epiphone Casino, notamment utilisé dans les clips de Hey Jude et Revolution en 1968, ainsi que lors du concert sur le toit d'Apple en 1969. Lennon joue de très rares fois de la basse, notamment sur les titres Helter Skelter, Let It Be et The Long and Winding Road, dans les cas où Paul McCartney est au piano ou à la guitare électrique. Il est aussi amené à jouer de l'orgue, comme dans la séquence de The Night Before du film Help, ou lors du concert au Shea Stadium de New York en 1965 pour l'interprétation de I'm Down. Durant sa carrière solo, Lennon montre également un certain talent pour le piano, instrument déjà utilisé lors des séances de composition avec Paul McCartney, par exemple pour I Want to Hold Your Hand, né d'une improvisation au piano. Le titre, souvent considéré comme le plus emblématique de Lennon en solo, Imagine, est aussi joué au piano. Durant cette époque, Lennon s'essaie également à divers bricolages sonores avec Yoko Ono, aboutissant à des morceaux d'avant-garde et des albums de musique expérimentale tels que Two Virgins. Il en est de même au sein des Beatles, où Lennon, s'il n'est pas le premier à s'intéresser à l'avant-garde, est le premier à placer un morceau du genre sur un album, le Revolution 9 de l'album blanc. 3.2. Écriture et art. 3.2.1. Auteur-compositeur. Durant la carrière des Beatles, Lennon signe toutes ses chansons de la marque Lennon-McCartney, son partenaire faisant de même, qu'une chanson était écrite en collaboration ou non. Formé à la suite de la rencontre des deux musiciens dès 1957, le duo écrit ses premières chansons lors des sessions chez Paul ou M&Dips. Il n'est pas rare que l'un ait un titre en tête, auquel cas l'autre rajoute des couplets, compose un pont ou un solo. Leurs premiers hits internationaux, From Me to You, She Loves You ou I Want to Hold Your Hand, sont quant à eux écrits en totale collaboration. Les compositions de ce type sont plus fréquentes au début de la carrière. Dans le cas où l'idée de départ vient de Paul McCartney, Lennon apporte souvent un contrepoint à l'optimisme des chansons de son partenaire. Ainsi ajoute-t-il une touche de tristesse ou d'impatience à We Can Work It Out et Michelle. Sur le contenu des chansons, Lennon a généralement plus tendance à parler de lui-même, là où McCartney a davantage de facilité à imaginer les situations. Parmi ses influences en termes d'écriture, Lennon cite volontiers Bob Dylan, dont les textes l'ont poussé vers plus d'introspection et d'analyse de ses propres sentiments. Progressivement, John et Paul préfèrent composer séparément, ce qui ne les empêche pas de s'aider et de compléter leurs chansons. En 1967, McCartney ajoute ainsi une transition au sein de A Day in the Life de Lennon, tandis qu'ils élaborent ensemble With a Little Help from My Friends. De même, I've Got a Feeling est un mélange de chansons inachevées de chacun. Par ailleurs, si McCartney a écrit les chansons les plus populaires du groupe, Hey Jude, Yesterday, c'est Lennon qui est à l'origine des compositions les plus abouties sur le plan musical. Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus. Après la fin du groupe, Lennon reconnaît volontiers avoir écrit quelques chansons médiocres dans un but plutôt alimentaire, comme Little Child ou Anytime at All. Avec le temps, il écrit des chansons plus personnelles. I'm a Loser décrit ainsi ses sentiments du moment. De même, il compose Nowhere Man alors qu'il se sent déprimé et homme de nulle part. Et In My Life, où devenu une star planétaire à 25 ans, il se retourne avec nostalgie sur son passé. Il lui arrive également d'exprimer ses craintes quant à sa vie sentimentale, dans Run For Your Life, où il menace sa femme de la tuer en cas d'adultère, un acte dont il ne se prive pourtant pas en tournée, ou Don't Let Me Down, cri déchirant de Lennon à Yoko Ono, l'incitant à rester auprès de lui. Par ailleurs, il compose à partir de 1966 des chansons aux tonalités psychédéliques et plus inspirées par la drogue, telles que Lucy in the Sky with Diamonds ou I'm the Walrus, au texte rempli de non-sens. D'autres créations, comme I Want You, She's So Heavy ou You Know My Name, Look Up the Number, sont plus minimalistes dans leurs textes. Si, au sein des Beatles, John Lennon ne s'est permis qu'une seule chanson politique, Revolution, il lance sa carrière solo avec Give Peace a Chance, un titre à vocation contestataire et pacifiste. Son engagement politique émaille ainsi toute sa discographie en solo, avec des hymnes tels que Power to the People, Imagine et Working Class Hero, ou encore des chansons de soutien à diverses causes. Dès son premier album, John Lennon Plastic Ono Band, Lennon tourne la page des Beatles en les citant sur la chanson God, parmi les symboles auxquels il ne croit plus. Les textes de l'album contiennent déjà les thèmes qui le seront chers par la suite, l'étude de soi-même et de ses doutes, et sa relation avec Yoko Ono, à qui il consacre régulièrement des chansons. Il s'essaie également à d'autres façons d'écrire, moins conventionnelles. Les chansons journalistiques, écrites à la va-vite sur l'album Sometime in New York City, les berceuses, Beautiful Boy, à destination de son fils Sean, ou les chants de Noël, Happy Christmas, War is Over. Muri, Lennon s'inspire de ses lectures. Ainsi, Mind Games est une référence à un livre de psychologie traitant de l'élévation de conscience. De même, il explore le féminisme, sous l'influence de Ono, via Woman is the Nigger of the World, et surtout Woman, qu'il écrit après avoir lu notamment The First Sex d'Elizabeth Gould Davis. Lennon se laisse aussi volontiers aller à la nostalgie, mais règle aussi ses comptes, parfois durement, avec Paul McCartney, How Do You Sleep, avant de se retourner contre Alan Klein, Steel and Glass. Enfin, il n'oublie pas ses racines, rock'n'roll, et compose encore quelques titres de ce style, comme It's So Hard, qu'il enregistre avec le saxophoniste renommé King Curtis. 3-2-2, écrivain et artiste. John Lennon commence à écrire et dessiner de façon créative assez tôt, à la suite des incitations de son oncle. Il rassemble des histoires, ses poèmes, ses bandes dessinées et ses caricatures dans un cahier d'exercice de son école, qu'il baptise le Daily Howl et qu'il montre à ses amis pour les amuser. L'ensemble est truffé de jeux de mots, les dessins qu'il crée représentent souvent des personnes handicapées, pour lesquelles John éprouve une certaine fascination, voire, d'après George Harrison, de la peur, et les histoires qu'il raconte sont satiriques à souhait. En 1964, Lennon publie son premier ouvrage, In His Own Right, un recueil de dessins, de poèmes et de courtes histoires pleines d'humour et de non-sens, dont certaines sont reprises du Daily Howl. C'est ma forme d'humour. Je masquais mes sentiments derrière du charabia. Par exemple, il joue sur la sonorité des mots, à l'image de son livre, In His Own Right, au lieu de Right. Ou encore, son texte introductif, I was bored on the 9th of October 1914. Bored au lieu de born, ce qui donne je me suis ennuyé le au lieu de je suis né le, October au lieu de October. Le livre est apprécié de la critique, ce qui surprend son auteur. À mon grand étonnement, les critiques ont aimé. Je ne pensais pas que le livre serait ne serait-ce que critiqué. Je ne pensais pas que les gens accepteraient le livre comme ils l'ont fait. Pour dire vrai, ils l'ont considéré plus sérieusement que je l'ai fait pour ma part. Tout a commencé comme une blague pour moi. Suite au succès du premier, Lennon publie un second ouvrage, A Spaniard in the Works, en 1965. Le livre contient notamment une histoire sur Sherlock Holmes, qu'il déclare être la chose la plus longue qu'il ait jamais écrite. Dans sa façon de travailler, Lennon avoue être chaotique et dissipé. Mon esprit ne s'attarde pas longtemps sur le même sujet. J'oublie qui j'ai mis en scène, je me perds, j'en ai marre, et ça m'ennuie. C'est pour ça que je tue généralement tout le monde. Je les ai tous tués dans le premier livre, mais dans le deuxième, j'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de progresser. Lennon reste par ailleurs très influencé par Lewis Carroll et Ronald Stearns, et nourrit, à l'époque, l'ambition d'écrire un livre pour enfants. A Spaniard in the Works se vend cependant moins bien que le premier. Ces deux livres inspirent une pièce de théâtre, The John Lennon Play in His Own Right, mise en scène en 1968. La première représentation de la pièce marque l'une des premières apparitions publiques de Lennon au bras de Yoko Ono. Lorsqu'il se retire de la vie publique pour s'occuper de son fils Sean, Lennon se consacre à nouveau à l'écriture et au dessin. Ses œuvres sont publiées dans différents ouvrages posthumes, tels que Skywriting by Word of Mouse ou encore Brill Love the Drawing for Sun. 3-3, discographie. 3-3-1, avec les Beatles. La discographie de John Lennon est tout d'abord commune avec celle des Beatles et débute avec le premier album du groupe, Please Please Me, en 1963, auquel succède rapidement With the Beatles la même année. Si ces deux albums contiennent un certain nombre de reprises, ils comprennent également les premières chansons signées Lennon-McCartney. Plusieurs albums se succèdent durant la Beatlemania, au rythme effréné de deux albums par an, jusqu'à la sortie en 1965 de Rubber Soul, qui marque un tournant pour le groupe. Il s'agit également du début de la période hippie de Lennon, illustrée par la chanson The World. Les deux albums suivants, Revolver, en 1966, et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en 1967, sont souvent considérés comme l'apogée artistique du groupe. C'est également valable pour Lennon, qui compose à cette époque plusieurs de ses chansons les plus appréciées, telles que Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, et I Am the Walrus, aux tonalités psychédéliques. La préparation de l'album blanc marque le début des tensions entre John et Paul McCartney. Lennon compose à cette époque un grand nombre de chansons. L'album est en particulier marqué par Revolution 9, un collage sonore réalisé par John et Yoko Ono, et inséré sur l'album en dépit du désaccord manifeste de McCartney et John Martin, et George Martin, 1-2-3, et George Martin. Sur Abbey Road, Lennon compose ce qu'il considère comme l'une de ses chansons préférées, comme Together. 3-3-2, carrière solo. John Lennon réalise son premier album hors du groupe en 1968 avec Two Virgins. Il s'agit d'un album de musique expérimentale réalisé avec Yoko Ono, dont la pochette est ornée d'une photographie du couple dénudé. L'album, qui fait scandale, ne connaît qu'un succès relatif. Le premier véritable single solo de Lennon est Give Peace a Chance, enregistré à Montréal en 1969. Après la séparation définitive des Beatles, Lennon réalise en 1970 son premier album, John Lennon Plastic Ono Band, qui devient l'un de ses albums les plus populaires. Il se caractérise par ses tonalités mélancoliques, Mother, Isolation, et parfois belliqueuses, Working Class Hero. En 1971 sort Imagine, un des albums phares du chanteur, qu'il décrit comme Working Class Hero avec du sucre. L'album contient la chanson du même nom, qui atteint le sommet des classements de nombreux pays et devient avec le temps l'un des plus grands hymnes pacifistes jamais écrits. Au cours des trois années qui suivent, Lennon enregistre encore quatre albums, relativement mineurs, dont Wall and Bridges, qui se classe numéro 1 aux États-Unis. Il se retire ensuite pendant 5 ans pour s'occuper de son fils Sean et revient en 1980 avec Double Fantasy, en très étroite collaboration avec Yoko Ono. Le chanteur est assassiné peu après. Nombre d'albums paraissent après la mort de Lennon. S'il s'agit surtout de compilations, on trouve également un album studio publié à titre posthume en 1984, Milk and Honey, et une connexion d'inédits publiée en 1986, intitulée Men Love Ave. Le coffret John Lennon Anthology, sorti en 1998, est un panorama de la carrière solo de l'artiste, contenant un certain nombre de ses prises inédites. 3-4, filmographie. Les apparitions de John Lennon au cinéma sont peu nombreuses et se font le plus souvent avec les Beatles. Une seule fois, pendant les années 1960, il travaille sur un film sans les autres Fab. Cependant, après la séparation des Beatles, il produit plusieurs courts-métrages d'avant-garde avec sa femme Yoko Ono. 3-4-1, succès des Beatles. La première incursion des Fab Four au cinéma remonte à 1964, avec A Hard Day's Night, réalisé par Richard Lester. Ce faux documentaire en noir et blanc montre supposément comment les Beatles vivent en pleine Beatlemania. Cependant, La représentation de la folie entourant les Beatles est édulcorée, car en réalité, la Beatlemania commence à se vivre de plus en plus difficilement pour les 4 Beatles, et plus spécialement Lennon. Celui-ci s'enfonce progressivement dans un mal de vivre qu'il transpose dans sa chanson Help. Cette chanson est le point de départ du film du même nom, de nouveau réalisé par Lester en 1965. Cette fois, le film est en couleur, et l'histoire est totalement fictive. Les Beatles sont poursuivis par une secte hindoue qui cherche à récupérer une bague sacrificielle que Ringo porte à son doigt. Le groupe critique le film à la suite de sa sortie, se considérant comme relégué à un rôle secondaire dans leur propre film. En août 1966, la Beatlemania a pris une ampleur effrayante et dangereuse, et finit par frustrer les Beatles. Ils décident de mettre un terme aux tournées mondiales et arrêtent de jouer en public. Lennon vit mal cet arrêt qui signifie pour lui la fin des Beatles. Il tente de trouver une autre alternative et accepte un second rôle dans le film How I Won the War, toujours tourné par Lester et sorti en 1967. Pendant le tournage, il compose Strawberry Fields Forever, annonciatrice des productions des Beatles de cette année-là. Après un Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band au succès retentissant, le groupe, sous la direction de Paul McCartney, se lance dans la production d'un film qu'il aura lui-même produit. Le résultat est Magical Mystery Tour, réalisé avec la collaboration de Bernard Knowles, et paru à la fin de 1967. Le film met en scène les Beatles dans un voyage en autobus psychédélique, accompagné d'un rassemblement hétéroclite d'acteurs choisis au hasard. Le succès n'est pas au rendez-vous, les critiques descendent le film, et même le public est déçu. Les chansons du film, rassemblées sur le double EP Magical Mystery Tour, sont cependant bien accueillies, toutes dans la même veine psychédélique que Sgt. Pepper. 3-4-2, projets expérimentaux. À la suite de ce premier échec commercial et critique, et sa rencontre avec Yoko Ono, John Lennon essaie de s'aventurer hors du cadre des Beatles et participe fin 1968 au Rock'n'Roll Circus, une émission musicale et de variété organisée par les Rolling Stones. Mais auparavant, il est impliqué avec les 3 autres Beatles dans le dessin animé Yellow Submarine réalisé par George Dunning. Les Beatles, désintéressés du projet, n'y prêtent même pas leur voix et s'occupent exclusivement de fournir une poignée de chansons rassemblées par la suite sur l'album du même nom. Le dernier film de John avec les Beatles constitue au final le témoignage de la séparation du groupe. Au début de 1969, le groupe doit faire un dernier film pour respecter son contrat avec United Artists, alors qu'il n'a pas eu la moindre envie de jouer la comédie. On décide donc de filmer les Beatles en répétition pour un concert final sur les toits du bureau d'Apple. Cependant, les tensions pendant le tournage sont apparentes et transparaissent dans le film. Les Beatles attendent un an avant de le laisser sortir, tandis qu'ils sont insatisfaits du résultat. Let It Be, réalisé par Michael Lindsay Hogg, paraît en 1970, peu avant l'album éponyme. Lors de sa sortie, le groupe s'est déjà séparé. Mais quelques temps avant que les Beatles se séparent, en 1968, Yoko Ono l'initie à faire de courts films expérimentaux. Le couple en produit au-dessus d'une trentaine dans les années qui suivent, jusqu'en 1972. La plupart consistent en des extraits de concerts filmés et de vidéoclips, tandis que d'autres ont un concept bien défini, par exemple Self-Portrait, qui montre le pénis de John en phase d'érection, et Erection, qui présente son avance rapide, je crois, la construction de l'International Hotel de Londres. 4. Postérité. 4-1. Héritage. 4-1-1. Patrimoine. Depuis la mort de Lennon, c'est Yoko Ono qui gère son patrimoine. Elle produit ainsi un grand nombre d'albums posthumes du musicien à partir d'enregistrements inédits. Lorsqu'à la fin des années 1990, Paul McCartney demande à ce que Yesterday soit crédité McCartney-Lennon plutôt que Lennon-McCartney sur la compilation One, Ono refuse. De même, elle s'implique avec les Beatles, encore en vie et l'épouse de George Harrison, dans la production du jeu The Beatles Rock Band et, de façon générale, dans le devenir des intérêts du groupe. Ono gère également l'image de son mari, ce qui provoque en 2010 une polémique lorsque Lennon apparaît dans une publicité pour Citroën. Des objets appartenant au chanteur sont également disputés aux enchères. Ainsi, en 2000, le piano sur lequel il a composé Imagine est acheté par George Michael pour plus de 2 millions de livres sterling. De même, en 2007, un collectionneur britannique achète une paire de lunettes ayant appartenu à Lennon pour une somme tenue secrète. En 2010, enfin, le manuscrit des paroles de la chanson A Day in the Life est vendu pour 1,2 million de dollars. En 2006, le magazine Forbes révèle que Lennon est la 4e des personnalités décédées les plus riches. 4-1-2, honneur posthume. Nombreux sont les artistes qui considèrent les Beatles comme une source d'inspiration. Nombre des chansons écrites par Lennon pour le groupe ont par ailleurs été reprises par divers groupes et chanteurs. La chanson Scarabée, tirée de l'album MNG de Vanessa Paradis, rend hommage à la vie de l'artiste. La chanson des Cranberries I Just Shot John Lennon en est également un exemple. De même, la chanson Gosse en cavale de Patrick Bruel évoque l'onde de choc qui a suivi l'annonce de la mort de Lennon. Liam Gallagher, le chanteur du groupe Oasis, considère pour sa part Lennon comme un héros et a nommé son fils aîné, Lennon Gallagher, en hommage au chanteur. Les chansons de John Lennon connaissent également un grand succès après sa mort. En 1999, la BBC publie un sondage révélant qu'Imagine est la chanson préférée des Britanniques. En 2002, un sondage mené par la même BBC le classe parmi les 100 plus grands héros britanniques. Le magazine Rolling Stone le classe pour sa part 5e meilleur chanteur de tous les temps et 38e plus grand artiste de tous les temps, alors que les Beatles arrivent premiers. Deux de ses albums solo, Imagine et John Lennon Plastic Ono Band, figurent parmi les 500 plus grands albums de tous les temps selon ce même magazine, qui classe par ailleurs pas moins de 4 albums des Beatles parmi le top 10. Enfin, Lennon figure depuis 1987 au Songwriter Hall of Fame et depuis 1994 au Rock and Roll Hall of Fame. 4-2, hommages et mémoriaux. 4-2-1, au cinéma. Plusieurs films ont été réalisés sur Lennon après sa mort. Ainsi, un téléfilm, Two of Us, romance une rencontre entre Lennon et McCartney à New York après la séparation des Beatles. Plusieurs films reprennent également l'assassinat de John Lennon. The Killing of John Lennon et Chapitre 27, tous deux sortis en décembre 2007. Dans ce dernier film, Lennon est incarné par Mark Lindsay Chapman, homonyme de son assassin. En 2009, les débuts de Lennon au sein des Quarrymen sont relatés dans le film Nowhere Boy, dont la sortie américaine est prévue pour célébrer le 70e anniversaire du chanteur en octobre 2010. Des documentaires ont également été réalisés sur le chanteur, tels que Imagine John Lennon en 1988, composé d'images d'archives et d'interviews, et Les USA contre John Lennon en 2006, qui raconte les tentatives d'expulsion menées par Richard Nixon dans les années 1970. 4-2-2, mémoriaux. En 1985, le mémorial Strawberry Fields est inauguré au Central Park de New York et est le théâtre de rassemblements réguliers pour commémorer les anniversaires de l'artiste. En 2002, l'aéroport de Liverpool, rénové, a été rebaptisé John Lennon Liverpool Airport. Une statue de bronze le représentant est installée dans le hall d'enregistrement. La devise « Above Us Only Sky », tirée des paroles d'Imagine, est peinte au plafond, tandis qu'à l'extérieur, un Yellow Submarine géant accueille les automobilistes. Depuis le milieu des années 1980, un mur de la ville de Prague continue d'être recouvert de graffitis en son hommage et est devenu le Lennon Wall. En 2007, près de la capitale irlandaise Reykjavik, a été inaugurée l'Imagine Peace Tower, une tour qui projette un rayon lumineux en direction du ciel, chaque année entre le 9 octobre et le 8 décembre. Des expositions lui ont aussi été consacrées, dont John Lennon Unfinished Music, du 20 octobre au 25 juin 2006 à la Cité de la Musique, et Imagine, la balade pour la paix de John et Yoko, une exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts de Montréal, du 2 avril au 21 juin 2009. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.